سوا في رمضان. نرحب بكل المستمعات والمستمعين الذين يتابعوننا على موجتنا العاملة على الأوتبرد أو على موقع radioorion.com دون أن ننسى مستمعينا عبر تقنية دابلوس. برفقتكم غيمون جوان وزهور. وكما أعلنت سابقا نتحدث عن المسنين والعزلة، وللحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرة على الخط دكتور عماد الحافظي جيرياتر جيرونتولوج. بونجور دكتور، بيانفينو سور لي زون دو راديو أوريون. رمضان مبارك كريم وإن كانت متأخرة شيئا ما.
ليست متأخرة. السلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذة زهور، ميرسي بور لانفيتاسيون. سوي تري كونتون دتر بارمي فو. Et je suis très ravi de vous entendre de nouveau sur l'antenne de Radio Orion. Vous nous avez manqué.
Merci beaucoup, docteur Imad Al-Hafidi. Je rappelle que vous êtes gériatre, gérontologue, président de l'Alliance Euro-Marocaine de Gériatrie et Gérontologie, chef de service dans un établissement médical spécialiste dans la nutrition du sujet âgé. Donc, le sujet âgé, vous connaissez très bien, docteur Imad Al-Hafidi. L'isolement se distingue de la solitude. Près de 4 personnes sur 10 de plus de 75 ans vivent seules à leur domicile. Isolement des personnes âgées, de quoi parle-t-on, docteur Imad Al-Hafidi?
Alors, en fait, quand on parle d'isolement des personnes âgées, nous, en tant que gériatres, c'est l'un des facteurs qu'on essaie de rechercher, ou plutôt l'un des éléments de vulnérabilité qu'on doit chercher lors d'une consultation. Alors, quand on parle de personnes âgées, il faut savoir qu'en France, 2 millions de personnes âgées sont isolées et presque 530 000 n'ont aucune interaction sociale, voire peu d'interaction sociale. Alors, quand on parle d'isolement des personnes âgées, il y a bien évidemment des facteurs de risque qui les exposent à être isolés. Donc, par exemple, une personne âgée peut se retrouver isolée à la perte d'un conjoint ou une conjointe. La précarité, ça peut les isoler sur le plan économique. On a moins d'interactions, sociales, moins d'activités habituelles, qui fait qu'ils sont de plus en plus en retrait et ils font moins de choses. Donc, la précarité est un facteur de risque d'isolement. Les conflits familiaux, donc quelqu'un qui est, quand il y a un conflit entre deux personnes, voire même plusieurs, donc les personnes âgées ont tendance à être se retrancher chez eux et ils ne peuvent plus sortir ou plutôt ne peut plus avoir de contact avec sa famille. La perte d'autonomie, ça c'est un gros facteur de risque. Bah, quand on dit une perte d'autonomie, que ce soit pour les activités de la vie quotidienne, ça veut dire une personne qui n'arrive plus à marcher ou qui garde une séquelle d'une maladie quelconque, il est exposé à être à mobilité réduite et à être isolé, même s'il l'a pas choisi. Cette perte d'autonomie peut être aussi une perte d'autonomie pour ce qui est des activités instrumentales, comme on dit nous dans le jargon gériatrique, activités instrumentales de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'il n'est plus en mesure de prendre les transports en commun, d'aller régler, de faire ses courses, de faire son ménage. Donc tout ça, c'est des activités instrumentales de la vie quotidienne. Et parfois, une personne âgée, de par une maladie, a tendance à se replier sur elle-même comme quand on a la dépression, on a une sorte de repli sur soi, où il y a perte d'espoir de faire quoi que ce soit. Donc là, on est sur un isolement dû à la maladie. Donc vous voyez que l'isolement social, c'est souvent multifactoriel, avec multiples facettes qu'il faut identifier pour une simple raison. C'est que, et je préfère que les auditeurs le comprennent, c'est que l'isolement social est un facteur de risque de mortalité. Ça, c'est quelque chose, toutes les études l'ont montré, quand les personnes âgées sont isolées, c'est un facteur de risque de mortalité. Et puis, cet isolement, il va aussi aggraver, voire c'est une vulnérabilité, et surtout parfois une vulnérabilité psychosociale avec une baisse de l'attention, bien évidemment, ça peut majorer certains troubles cognitifs quand il n'y a pas d'interaction sociale.
Je pense parmi les causes aussi, docteur Imad Al-Hafidi, la perte de relations intergénérationnelles.
Oui, effectivement. Aujourd'hui, ça devient presque un fléau de société quand il y a quand les jeunes ne comprennent pas les personnes âgées ou plus vice versa.
Le grand-père et la grand-mère n'ont plus la même place qu'il avait avant, non?
En fait, ça dépend des sociétés, on va dire dans les sociétés plutôt développées, cette fibre familiale s'est délitée presque quasi complètement. Dans les d'autres sociétés en voie de développement ou dans une société où la culture, la culture familiale et parfois dans certaines cultures, parce que la religion fait partie de la culture musulmane, où on va dire que la personne âgée elle a encore sa place, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça reste quand même assez prédominant dans plusieurs cultures, mais le modèle intergénérationnel, il est en train de se déliter un peu partout. Et aujourd'hui, on est aussi dans des sociétés connectées. Et c'est vrai qu'une personne âgée aujourd'hui qui n'est pas connectée peut être isolée rien qu'avec ce sujet de connexion. Parce qu'on parle maintenant de plus en plus d'électronisme. Donc, quand on n'a pas accès au digital, au numérique, une personne âgée peut être isolée. Mmh. Alors que quand il y a accès, elle va se sentir moins isolée. Vous avez tout à fait raison de le signaler, Madame Zohor, c'est qu'effectivement, le conflit de génération est un facteur surajouté au facteur de risque d'isolement.
Et comme vous venez de le dire, docteur Imad Al-Hafidi, la difficulté à manier les outils numériques peut parfois renforcer la sensation d'isolement. Est-ce qu'on peut dire que la COVID ou la crise COVID-19 a accentué cette problématique, docteur Imad?
Bien évidemment, la crise Covid a accentué, de par les facteurs de risque que j'ai cités, ou la perte des conjoints, la perte d'autonomie, la précarité. Il faut dire que lors de la première vague, il y a 2 ans, il y a eu aussi des erreurs stratégiques. En voulant protéger, surprotéger, on a aggravé les cas des personnes âgées, parce que surtout on a vu les cas dans les maisons de retraite où les personnes âgées ne voyaient plus la raison pourquoi ils vivent, puisque leurs attaches sociales ont été complètement coupées. Attache familiale tout d'abord, et je dirais même les relations sociales qu'ils avaient avec le monde extérieur, parce qu'il faut dire que les structures des personnes âgées, c'est des lieux de vie, et parfois il y avait les bénévoles qui venaient leur rendre visite, il y avait des activités, il y avait de beaucoup de choses qui se faisaient, et puis c'est pour ça on parle de projet de vie dans ce type d'établissement, et du jour au lendemain, les repères ont été coupés d'un seul coup, et puis les personnes âgées, surtout quand ils ont cette fragilité cognitive, ne voyaient plus de raison pourquoi ils vivent, et on a vu entendre souvent un syndrome qu'on appelle le syndrome de glissement, où une personne âgée se laisse mourir, et ça c'était malheureusement une expérience très douloureuse de la première vague de la crise Covid, et qui les tutelles ont bien compris les choses grâce au signalement fait par les gens sur le terrain, notamment les soignants, et du coup il n'y avait pas d'isolement complet des personnes âgées lors de cette crise Covid. Effectivement, la crise Covid avait aggravé l'isolement des personnes âgées.
Docteur Imad Al-Hafidi, peut-être le départ à la retraite est synonyme de perte de la vie sociale associée au travail. Si l'on y ajoute, par exemple, un déménagement, le risque d'être isolé. Est-ce qu'on peut prévenir l'isolement, docteur Imad?
Alors, bien évidemment, l'isolement social peut être prévenu. Encore une fois, c'est une approche qui va être médico-psychosociale. C'est une approche de 180 degrés où on va repérer la fragilité. Et aujourd'hui, le lien, on appelle ça le lien ville-hôpital, y contribue à ce tandem pour prévenir certaines choses, notamment que ce soit les maladies et même sur le plan l'isolement social, l'isolement social. Ça veut dire que si on repère un isolement social, eh ben déjà aussi dans le lieu de vie, dans l'environnement où vit la personne âgée, je parle de son quartier, il peut avoir un signalement de par les centres communaux d'action sociale. Puis il peut avoir aussi les associations de quartier. En fait, c'est des personnes qu'il faut repérer très rapidement en amont. Et vous savez, il y a une expérience qui nous revient tous, la Zohor, c'est que vous vous rappelez lors de la crise caniculaire de 2003, beaucoup de personnes âgées sont décédées puisqu'ils étaient isolés. Maintenant, on a des plans qui sont enclenchés contre une canicule, et du coup l'un des moyens pour aller voir ce qui se passe, c'est que on prévient les voisins pour rendre visite et aller voir ce qui se passe dans le domicile du voisin qui est âgé et quand il est vulnérable. Bien sûr, ça peut être prévenu, donc ne serait-ce que sur la partie d'autonomie. Donc voyez l'axe quand j'ai dit la perte d'autonomie, on peut prévenir en jouant sur les facteurs de risque, en prévient l'isolement social, la précarité, repérer les personnes âgées avec une précarité économique, financière, c'est un facteur qu'il faut repérer. Et puis les relations avec les familles, et donc encourager les familles à maintenir un lien social avec les seniors, avec les personnes âgées, permet de prévenir cet isolement social. Vous voyez que c'est une dimension multi-interventionnelle aussi quand on veut prévenir l'isolement social. Et après, il y a des activités, je ne sais pas si on peut en parler, qui permettent de prévenir aussi cet isolement social. Donc, encourager...
Des activités de loisirs, vous voulez dire ?
Exactement. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire une activité, donc encourager une personne âgée à lire, à visionner ne serait-ce que des films, à être aussi connecté, comme vous l'avez dit. Là encore, faut-il les accompagner, parce qu'il faut évaluer leur autonomie aussi, leur dans une société où il n'y a pas d'analphabétisme. Oui, ça se fait, mais dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Les encourager à voyager, il y a des clubs de troisième âge aujourd'hui, on peut leur faire connaître des associations dans le quartier. Après, encourager à ces personnes âgées à organiser des repas en communauté. Vous voyez, donc c'est multi-axe, que ce soit activité socio-culturelle, physique, intellectuelle, encourager, et ça, il n'y a pas mieux, encourager une personne âgée à faire une activité physique en groupe et organiser cela, ça permet de maintenir le lien social. En fait, il y a une dernière chose, moi ça m'a rappelé l'une des premières consultations que je faisais avec parfois des patients atteints de maladies neurocognitives quand ils sont isolés. Eh ben, je vais vous surprendre, je les encourager à avoir un animal de compagnie. Et puis l'animal de compagnie fait que parfois s'il s'agit d'un petit chien, et ben ça les pousse à sortir. Et à sortir, qui dit sortir, ben on va aller, on va rencontrer du monde, on va interagir, et grâce à l'interaction, on peut stabiliser certaines maladies. Oui, donc de la même façon qu'on peut prévenir, ben on peut mettre en place ou encourager à faire des activités, tout ce que je viens de dire, le jardinage, hein, ça c'est une magnifique activité qu'ils aiment beaucoup, les personnes âgées. Donc beaucoup de choses à faire, encore faut-il les repérer, et c'est mieux de les repérer dans le territoire.
Il y a aussi peut-être les systèmes de colocation avec les étudiants, les jeunes.
Extraordinaire. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus, la Zohor, puisque pour rétablir, comme vous avez dit tout à l'heure, le lien intergénérationnel, maintenant, il y a un système de d'habitat ou de logement intergénérationnel, et dedans, il y a des règles à respecter. Moi, on a bien vu aussi certains documentaires, par exemple, une fois par semaine, ils ont déjà l'obligation de faire un repas collectif. Ils sont sous le même toit, mais on va dire, dans le même lieu où ils habitent. Donc, il y a une sorte de charte à respecter par les bénéficiaires. Et il y a le contact entre les générations. Et ils vont les aider aussi dans tout ce qui est démarche quotidienne. Ils vont les aider aussi dans les jeunes qui sont connectés à garder aussi parfois rien qu'avec les réseaux sociaux la connexion. C'est une très, très bonne idée de maintenir ce lien intergénérationnel. Et on a vu des expériences qui sont venues aussi de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, on a vu même des crèches de bébés implantés dans certaines structures de personnes âgées et le résultat était extraordinaire puisque ces personnes âgées aimaient bien cette activité et puis aussi par rapport à leur maladie, ils étaient, on va dire, ils étaient plus attentifs, moins de dégradation cognitive et psychosociale. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une idée parmi tant d'autres. Encore, il faut à régler cette problématique dans une politique de santé ou voire même un parcours coordonné de soins pour lutter contre cet isolement.
Donc l'isolement n'est pas une fatalité, il existe des solutions individuelles et collectives, docteur Aymed.
Exactement. Il y a des solutions et individuelles et collectives, il faut les connecter entre elles et le résultat il est extraordinaire, mais le mot qu'il faut dire, ben il faut maintenir le lien social avec ces seniors, prendre le téléphone, prendre des nouvelles, ça permet de maintenir le lien social. Aujourd'hui on peut le faire, même si des gens avec une autonomie réduite, on peut les accompagner. On a vu lors de même de la crise Covid, vous l'avez bien fait de le citer, c'est qu'on a pris des leçons de la première vague, bah, les vagues suivantes pour maintenir le lien social, on avait des tablettes, on maintenait à travers la caméra le lien avec l'entourage à l'extérieur qui ne pouvait pas rendre visite aux certaines structures hospitalières. Donc effectivement, ce n'est pas une fatalité, ça peut être prévenu, ça peut être prévenu et encore faut-il connaître les activités sur le territoire et c'est pour ça qu'il faut aller les chercher ces personnes âgées pour qu'ils soient moins isolés et qu'il y ait plus d'interaction avec leur entourage.
Merci beaucoup Dr Imad Al-Hafidi, je rappelle que vous êtes gériatre, gérontologue, président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie, chef de service dans un établissement médical, spécialiste dans la nutrition du sujet âgé et on va finir par votre slogan, vieillir.
Vivre, c'est vieillir. Agissons tous pour le bien vieillir.
Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Aymed. Au revoir.
Merci. Au revoir.